Gaston Leroux, extrait de Quelques nouvelles terrifiantes, Note Olympe. Jamais encore, à la terrasse de la vieille darse, où nos loups de mer prenaient tous les soirs l'apéritif, jamais encore il n'avait vu arriver Zinzin dans un état pareil. Les yeux lui sortaient de la tête et il était pâle comme un mort. C'est tout juste s'il eut eu le temps de se laisser tomber sur une chaise, et tous s'empressèrent autour de lui. « Mais qu'est-ce qu'il y a, Zinzin ? Qu'est-ce qu'il y a, mon pauvre vieux ?» demanda le commandant Michel. Zinzin fit signe qu'il ne pouvait pas encore parler. Enfin, il se passa la main sur le front et dit « Oh, je sors de chez le commissaire de police. Il vient de m'arriver une histoire épouvantable. » « Raconte-la à nous, pendant qu'elle est encore toute neuve, ça nous changera, » dit Gobert. « Oh, elle ne date pas d'hier, » fit entendre Zinzin avec un ricanement sinistre. « Elle te produit encore tant d'effets aujourd'hui ?»« Oh, je vous dirai pourquoi tout à l'heure, » répliqua l'autre de plus en plus lugubre. C'est une affaire à laquelle j'ai été mêlé tout jeune et qui a bien failli me faire taire pour toujours avec un petit jardin sur la tête. Parole de Zinzin, oh, si je ne bouffe pas à 7 heures du pissenlit par la racine, c'est pas la faute de cette damnée histoire de mariage qui a fait bien du raffut dans son temps puisqu'on est allé jusqu'en cour d'assises. « Oh, les histoires de mariage !» laissa tomber ce bougre de Chanlieu. « C'est pas ça qui manque, moi j'en connais 10 !»« Moi j'en connais qu'une !» reprit Zinzin dans une sorte de gémissement. « Mais à elle seule, je peux vous dire d'avance qu'elle est plus épouvantable que les 10 de Chanlieu réunis. » Là-dessus, il soupira encore effroyablement, ralluma sa pipe et cracha. Je vous ai jamais rien dit, parce qu'elle dépasse vraiment tout ce qu'on peut imaginer. Mais aujourd'hui, il faut que je parle. Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Ben quoi, Zinzin ? Ben, c'est qu'elle est épouvantable, cette histoire, râla Zinzin. Voir, dit Chanlieu. Zinzin lui jeta un regard d'assassin. Je peux vous dire que j'ai été amoureux qu'une fois dans ma vie, et c'est cette fois-là. Si ça ne s'est plus rencontré depuis, c'est que j'ai plus rencontré une fille pareille. Elle s'appelait Olympe, et nous étions bien une douzaine à vouloir l'épouser.
Voilà les blagues qui commencent, ricana Chanlieu.
12 que je dis, nous les compterons tout à l'heure, et encore je parle que de ceux qui se sont déclarés. Car il n'y avait pas un homme dans le département qui n'en eût envie. Elle était point riche, mais elle était de bonne famille. Quant à la beauté, oh, mes enfants! À l'époque dont je vous parle, elle avait juste 15 ans et 6 mois. Elle était d'un pays qui était renommé pour ses belles filles, et un gros bourg bien plaisant où l'on venait du chef-lieu, rien que pour voir les jeunesses sortir le dimanche de l'église. Eh ben, il n'y en avait pas une digne de lui dénouer les cordons de sa chaussure. C'était quelque chose. Oh, tenez, si vous êtes allé à Cagnes, vous avez peut-être vu des portraits de jeunes filles de Renoir. Ces portraits, c'est des choses qui n'existent pas. C'est peint avec des fleurs et la lumière du jour. Eh bien, voilà notre Olympe. Un rayon de soleil et des pétales de rose. Un rêve. Mais un rêve qui avait des yeux et une bouche, d'immenses yeux d'enfant d'une pureté surnaturelle et une bouche de femme. Cela seul était de la chair et du sang, cette bouche. Notre Olympe, oh, un ange descendu sur la terre pour pardonner des baisers. Nous étions tous fous, je vous dis. Elle n'avait plus que sa grand-mère qui l'adorait et qui l'avait fait sortir de pension à la mort de ses parents, la confiant à une vieille bonne, la Palmyre, qui faisait ses quatre volontés. Elle était restée très enfant, jouant souvent avec les gamins de la campagne, revenant de la forêt avec des chargements de fleurs sauvages, des manettes pleines de fraises des bois,
courant avec les chiens de berger derrière les troupeaux quand ça se rencontrait, et scandalisant plus d'une fois les dévotes en rentrant le soir à califourchon sur un bouc. Après dîner, dans la belle saison, les vieilles sur leur banc, devant leur porte, l'attendaient pour écouter des histoires extraordinaires qu'elle inventait avec une imagination inépuisable. La grand-mère, qui avait été dans son temps la belle Madame Gracien, habitait une grande vieille maison sur la place de l'abbaye, avec grille et parc donnant par derrière sur la campagne. Elle recevait toute la bonne compagnie des environs et avait conservé des relations avec la ville. Les manières de sa petite fille, qui l'avait tant amusée, commençaient à la faire réfléchir. Elle trouvait Olympe bien inconsciente pour son âge. Qu'adviendrait-il quand elle ne serait plus là ? Elle résolut soudain de la marier le plus tôt possible. Elle avait déjà reçu quelques offres. Mais quand on sut qu'elle ne les repoussait plus, il lui en vint de toutes parts. Ce fut un nouveau jouet pour Olympe que cet afflux d'amoureux. Enfin, un dimanche après-midi, dans le salon où nous étions tous réunis, la grand-mère commença par faire un petit discours à l'adresse d'Olympe. Notre Olympe, comme nous l'appelions tous à la manière de la bonne Palmyre, qui ne jurait que par elle. Elle lui dit qu'elle se sentait bien fatiguée, bien lasse, et qu'elle voudrait l'avoir établie avant de mourir. Là-dessus, Olympe se mit à pleurer. « Oh, mais je suis pas encore morte !» s'écria la vieille dame.
« Oh, je l'espère bien, grand-maman, » répliqua Olympe en séchant ses larmes. « Mais c'est pas pour ça que je pleure. Si vous croyez que c'est gai de se marier... »
Alors tout le monde éclata de rire. Nous jurâmes tous que son mari serait très heureux de se laisser mener par le bout du nez.
« D'abord, je ne veux pas me séparer de grand-mère, » fit-elle, « ni de Palmyre. » Et puis je veux rester dans notre vieille maison.
C'est entendu, reprîmes-nous tous en chœur.
Et maintenant, fit la bonne Madame Gracien, qui choisis-tu?
Oh, bien nous en reparlerons, dit Olympe. Voilà une façon de marier les gens. T'es vraiment pas sérieuse, grand-maman?
Voilà 6 mois que tu me dis qu'on en reparlera. Enfin, voyons, on s'amuse. Et tu sais que j'ai toujours fait ce que tu as voulu. S'il te fallait choisir parmi ces messieurs qui sont là, qui prendrais-tu?
Tout à coup, Olympe devint sérieuse et nous regarda. Oh, je vous prie de croire que malgré notre air de prendre la chose comme une plaisanterie, nous n'en menions pas large. Elle se leva, passa devant chacun de nous, nous toisa des pieds à la tête et avec des mines si drôles que nous ne laissions pas d'en être un peu gênés. Oh, je vivrai 1000 ans que je me rappellerai toujours la scène. Quel examen! À la vérité, nous n'en respirions plus. Elle nous fit lever, nous aligna sur un rang, nous plaça, nous déplaça, donnant à celui-ci le numéro 1, puis après l'avoir regardé bien dans les yeux, le rejetant au numéro 3 ou 4. Et pendant ce temps-là, la grand-mère nous encourageait. « Tenez-vous bien, messieurs, tenez-vous bien, soyez sérieux !» Et quand on songe qu'il n'y avait pas là que des jeunes gens, je me rappelle l'entrée du receveur de l'enregistrement, M. Passifère, qui depuis 2 ans avait posé sa candidature au-dessus de tout le monde. Il ne savait pas naturellement de quoi il s'agissait. Elle alla le chercher à la porte et le planta ahuri au bout du rang. Il avait le dernier numéro. Vous pensez si nous partîmes à rire? Mais lui, quand il fut au courant, ne riait pas, je vous assure.
Enfin, elle déclara « C'est fait. Si je me mariais, je prendrais d'abord M. Delphin, puis M. Hubert, puis M. Sabin, puis mon petit Zinzin, comme vous voyez, j'avais le numéro 4, puis M. Jacobini. Enfin, nous nommons tous les 12. Dirais-je, je vais compter. Nous disons donc, premièrement, M. Delphin, un très gentil garçon de grand avenir, le fils du pharmacien licencié Sciences qui travaillait son agrégation de chimie et dont on disait le plus grand bien à la faculté. Deuxièmement, M. Hubert, encore jeune, dans les 35 ans, garde général des forêts. Troisièmement, le docteur Félix Sabin, frais sorti de l'école et gai comme un pinson. Je crois qu'il s'était établi dans le pays dans le dessein de faire de la politique. Quatrièmement, votre serviteur, qui avait commencé à naviguer, mais qui aurait renoncé à tout pour rester avec Olympe. Cinquièmement, le lieutenant Jacobini, fils d'un colonel de gendarmerie. Un garçon très distingué, très chic, et qui revenait de mission en Afrique équatoriale, où il avait fait quelque peu parler de lui. Sixièmement, le fils d'un gros propriétaire, belle fortune. Septième, un jeune avocat. Huitième, un fils d'avoué. Neuvième, un vieux notaire. Dixième, un voyageur de commerce. Onzième, le substitut du procureur de la République. Douzième, monsieur Passifère, le receveur de l'enregistrement. Oui, c'est bien ça, 12. Nous n'étions que 12 ce jour-là. 6 mois plus tard, notre Olympe se mariait avec le numéro 1, le jeune Delphin. Nous étions tous de noces, mais nous ne nous amusions pas tous. Oh, oh non, je puis le dire. J'essayais bien de me faire une raison, mais je ne sais pas ce que j'aurais donné pour être à la place de Delphin. Cependant, l'année suivante, je ne l'enviais plus. Il était mort. Oh, on ne savait pas exactement de quoi. On racontait qu'il s'était empoisonné dans des expériences de laboratoire. Mais on n'était sûr de rien. Le médecin qui l'avait soigné, le docteur Sabin, hochait la tête quand on l'interrogeait. Je crois bien qu'il pensait au fond qu'à une chose, lui, c'est que du coup, il passait au numéro 2. Et que s'il arrivait un jour quelque accident au garde général des forêts qu'il précédait, il pourrait espérer encore dans sa chance. Car ce qui paraissait impossible depuis son mariage, Olympe était devenue encore plus jolie. Maintenant, quand elle passait dans ses voiles de deuil, c'était à se mettre à genoux devant elle. Elle pleura pas très longtemps, son premier mari. S'il fallait en croire les demi-confidences de Palmyre, M. Delphin n'était pas d'une gaieté folle, et pour une jeune mariée, passait trop de temps dans son laboratoire. Pas, ma fille, une jeunesse comme madame, qui laissait des journées entières pour chercher on sait quoi au fond de ses alambics. Le tour de M. Hubert, le garde général des forêts, devait fatalement arriver. Il ne tarda guère et lui-même y mit bon ordre en promettant à Olympe toutes les distractions qui lui avaient manqué lors de son premier mariage. C'était un gaillard que ce Hubert, grand mangeur, bon buveur et chasseur, comme il convient à un homme de sa situation et qui porte un nom pareil. Il y eut de belles fêtes chez Olympe, de grandes ripailles. Elle s'était mise à monter à cheval et il n'y avait pas plus fière amazone à 10 lieues à la ronde. Il fallait voir comme elle courait le cerf et le sanglier. Rien ne lui faisait peur. Nous avions peine à la suivre, et au retour, elle présidait les agapes avec un entrain qui nous donnait la fièvre à tous. On lui faisait la cour plus que jamais, mais elle se moquait généralement de nous. réservant ses plus beaux sourires pour le plus gai de la bande, le docteur Sabin. « Ça lui est dû, » déclara-t-elle en riant. « C'est lui qui a le numéro 3, à chacun son tour. »« Hé, là !» intervenait Hubert. « Je me suis jamais si bien porté. »« Et c'est moi qui le soigne, » repartait le docteur. « C'est le seul qui ne me soit pas permis de tuer. Remercie la Providence, Hubert, qui me défend de choisir mes victimes. » Tout cela était fort plaisant, mais pour mon compte, je trouvais que le docteur Sabin profitait trop de sa situation exceptionnelle dans la maison pour en prendre à son aise avec Olympe. On les voyait souvent se promener tout seuls dans le parc, ou même faire une petite promenade en forêt, quand Hubert, appelé par les devoirs de sa charge ou par quelque réjouissance cinégétique, que s'offraient ces messieurs, en garçon dans quelques villes des environs, délaissaient notre Olympe. Dans le bourg, on parlait plus que d'elle. Elle scandalisait de plus en plus les habitués d'été de 5 heures, chez Madame Tabureau, la femme du maire, ou chez Madame Blanc-Mougin, la femme de l'avoué, dont le fils n'avait obtenu que le numéro 8 dans le classement général, ce dont Madame Blanc-Mougin ne cessait de se féliciter. Au fait, depuis la mort de la vieille Madame Gracien, survenue entre-temps, Olympe ne mettait plus guère de limite à ses fantaisies, et surtout elle effrayait bien des gens par la liberté de ses propos. Hubert n'avait garde de la contrarier, amusé, flatté, de voir tant de convoitises allumées par ses beaux yeux bleus, toujours aussi candides, et par cette bouche éclatante qui semblait toujours demander un baiser. C'était un bon vivant que cet Hubert, mais ce n'était pas un véritable amoureux. « Nenni, ma fille !» glissait en douce la Palmyre à ceux qui avaient intérêt à ne rien ignorer de ce qui se passait dans le ménage. « Il aime plus la table que son lit, bien sûr. » Si madame n'était point si honnête, ça pourrait bien lui jouer un méchant tour. Et se disant, elle hochait la tête en regardant rentrer Olympe et le docteur Sabin, lequel apprenait dans le moment madame Hubert à conduire l'auto avec laquelle il faisait ses visites. Là-dessus, on commença à jaser ferme, quand un malheur nouveau vint frapper la maison de la maîtresse de l'abbaye. Hubert avait transformé en une espèce de pavillon pour chasseurs l'ancien laboratoire que le chimiste Delphin s'était installé dans un bâtiment isolé du fond du parc. Il avait réuni là tout son attirail, ses fusils, ses couteaux, ses carabines, ses pistolets, il y avait installé sa cartoucherie. On eût dit une véritable petite armurerie, si les murs n'avaient été décorés des trophées ordinaires à un disciple du saint dont il portait le nom. C'était du reste une petite bâtisse fort plaisante à l'œil, tout habillée de plantes et de fleurs grimpantes où l'on avait vu sur les champs, et où, plus d'une fois dans la belle saison, pour pouvoir rire plus librement avec ses camarades ou avec sa femme, loin des oreilles domestiques, il se faisait apporter un déjeuner, tout servi par la Palmyre. C'est là qu'Hubert fut trouvé, un après-midi d'août, vers 2 heures, un pistolet encore dans la main, le cœur troué d'une balle. Suicide ou accident? Certains même prononcèrent le mot crime, mais si bas qu'on ne les entendit point. Vous pensez le bruit qui se fit autour de l'affaire. Une enquête fut ouverte. Le substitut du procureur de la République, oui, il avait le numéro 11, lui, la dirigea. Ce fut le docteur Sabin, lequel avait le numéro 3, qui fut appelé à faire les premières constatations avant l'expertise médicale. Il conclut un accident. L'enquête hésita longtemps entre l'accident et le suicide. Finalement, elle conclut, elle aussi, à l'accident.
Ni ma fille, soupirait la Palmyre quand on la pressait en soit peu pour savoir ce qu'avait dit madame. Que voulez-vous qu'elle dise, notre Olympe? Elle sait rien de rien, bien sûr. Elle avait déjeuné dans le petit pavillon avec monsieur. Ils paraissaient bien gais, tous les deux. Elle est sortie de là vers les 2h30. Elle est rentrée tout droit dans sa chambre pour s'habiller, car elle devait aller en ville avec le docteur Sabin. Là-dessus, vers 3h, le jardinier entend un coup de feu. Il court au pavillon et il y trouve monsieur tout raide mort. Vous en savez maintenant tout autant que nous. Pourquoi donc il serait suicidé, cet homme? La vie était belle et notre Olympe aussi. Il avait tout pour être heureux. Maintenant, notre Olympe pleure toutes les larmes de son corps. C'est pas raisonnable. Un accident, personne n'en est responsable, pas. C'était à lui à être plus adroit. Ainsi parlait Palmyre. L'année suivante, notre Olympe épousait le docteur Sabin.
Je m'y attendais, interrompit Chanlieu. Si ton ange aux yeux d'azur et à la bouche de gouge doit s'offrir à tour de rôle ces 12 messieurs, on en a pas fini, et c'est pas drôle, je t'avertis.
Je ne vous ai pas promis une histoire drôle. Je vous ai dit qu'il m'était arrivé une histoire épouvantable. Olympe ne sait pas faire les 12, puisque j'en étais et que je suis encore vivant, et que j'avais le numéro 4. Tout de même, je pardonne à Charlieu, parce que ce qu'il a dit là a commencé à se répéter dans la région. Ils y passeront tous, c'est le bien de temps, il y a ça. Et pourquoi pas? Si ça lui faisait plaisir à notre Olympe, répliquait Palmyre, quand elle surprenait quelques propos de ce genre. Et elle ajoutait, en grattant son menton en galoche, elle aurait bien tort de gêner pour ce que valent les hommes. C'était terrible ce qu'elle disait là dans son inconscience de brute à servir aux besoins tous les desseins de sa maîtresse. Certes, le docteur Sabin était brave d'entrer dans cette maison que semblait guetter le malheur. À quoi quelques bonnes vieilles de celles qui sont particulièrement habiles à glisser leur petite malice entre une grimace et un sourire, répliquait « Oh, celui-là, il lui arrivera rien du tout, il sait bien ce qu'il fait. » Je vous dis, on n'entendait plus que des choses terribles. Ce pauvre docteur, il savait pas tant que cela, ce qu'il faisait, puisqu'il mourut lui aussi 3 mois, jour pour jour, après les noces. Il avait duré moins longtemps que les autres. « Pigre !» siffla Gobert. « Et voilà votre tour !» fit le commandant Michel.
« On va commencer à rigoler !» dit Chanlieu.
Mais ils cessèrent tout à fait de plaisanter. Ce pauvre zinzin était redevenu affreusement pâle, et sa main tremblait en reposant son verre sur la table. Il fixait d'un œil hagard un homme qui se dirigeait vers lui. « Tiens, fit le commandant, le chien du commissaire. » C'était lui, en effet. Il se pencha à l'oreille de Zinzin et lui dit « Nous avons reçu une réponse au coup de téléphone. Elle est morte il y a 10 ans, vous voilà bien tranquille. » Là-dessus, il s'en alla. Quant à Zinzin, il avait basculé dans les bras du commandant et il fallut le ramener chez lui. « Pourvu qu'il ne clapse pas avant la fin de son histoire !» émit gentiment Gobert. Chanlieu haussait les épaules.
« Bah, il soigne ses effets !»
Tout de même, nous n'en connûmes la suite que 8 jours plus tard. Zinzin semblait s'être fait une raison, mais assurément il avait été bien malade. Cette fois, on l'écouta sans l'interrompre.
C'était donc mon tour, le tour du numéro 4. J'en savais encore rien. Je courais des bordées dans la Baltique quand l'événement se produisit. Je l'appris qu'à mon retour à terre, en me jetant dans le train qui me ramenait au patelin, et de la bouche même du lieutenant Jacobini, qui lui avait le numéro 5, et rentrait également chez nous après un long séjour en Cochinchine. Notre voyage ne fut pas gai, je l'avouerai tout de suite. En dépit de la certitude que j'avais de pouvoir désormais épouser Olympe, et malgré l'espoir que le lieutenant Jacobini pouvait nourrir de son côté et de consoler bientôt ma veuve, cette double perspective ne nous remplissait pas d'allégresse. La maison de la place de l'abbaye nous apparaissait moins maintenant comme un lieu de délices que comme un tombeau. La première chose que je demandais naturellement à Jacobini quand il lui fait part de la sinistre nouvelle, ce fut de bien vouloir me donner quelques détails sur cette fin subite. Comment le docteur Sabin était-il mort? Il me répondit d'un air assez lugubre qu'il n'en savait fichtre rien, que personne n'en savait rien, mais qu'il désirait autant que quiconque sinon plus s'être fixé là-dessus et que c'était la raison pour laquelle il avait raté son retour. « Et vous ? » me demanda-t-il. « Oh, moi, fiche, vous comprenez que je me montrerai au moins aussi curieux que vous. »« Oui, » me répondit-il sans la moindre ironie, « je comprends cela, c'est plus pressé. »« Mais enfin, » dis-je, « on a bien donné un nom à cette mort. »« Pas plus qu'à la mort du premier mari de notre Olympe. » Pour Delphin, on a raconté vaguement qu'il était mort empoisonné par des expériences de laboratoire. Ça n'a jamais été démontré. En ce qui concerne le docteur Sabin, il ne pourrait être question de cela. Toutes ces morts, cependant, finissent par paraître bien étranges. Dites donc, Jacobini, le parquet s'en est pas ému? Si! Notre substitut du procureur de la République, notre numéro 11, a ordonné une enquête. Je dois dire du reste que notre Olympe a été la première à la demander. Il y a eu autopsie. Eh bien ? Eh bien, rien. Mais ce rien ne prouve rien, ajouta-t-il sur un ton qui me frappa. Que voulez-vous dire ? Avez-vous quelques soupçons ? En pareille matière, répliqua Jacobini, il n'est pas permis d'avoir des soupçons. Il faut avoir des certitudes où on se tait. Et il se tut. Mais tout ceci n'était point fait pour apaiser mon inquiétude. Enfin, est-il mort dans son lit? Était-il malade? Non, non, on l'a trouvé vers les 5 heures de l'après-midi, dans sa chambre, étendu tout son long près d'une table et d'une chaise renversée, la bouche encore écumante, le visage ravagé comme par une vision d'horreur. Il a été prouvé qu'il était resté seul dans cette pièce depuis 3 heures et que le château était cet après-midi-là complètement désert, les domestiques s'étant rendus à une foire voisine. Et Madame Sabin? Elle avait déjeuné avec lui dans le petit pavillon du fond du parc et y était restée après le déjeuner à faire de la dentelle avec la palmyre. Enfin, à quoi t'en conclus? Une attaque d'épilepsie. Le docteur Sabin serait tombé du haut mal. Y était-il sujet? Non, mais c'est pas toujours une raison, paraît-il. Là-dessus, nous gardâmes longtemps le silence. Puis je poussai un soupir. Oh, il faut plaindre sincèrement Olympe, fis-je. Sans cela, oh, mais cela, ce serait trop épouvantable. Oui, fit-il avec réflexion, c'est vous qui avez raison, ce serait trop épouvantable.
Il faut la plaindre. Du reste, Palmy raconte qu'elle est tout à fait accablée. On ne la voit plus, elle ne dort plus. Elle veut s'enfermer dans un couvent. Toujours, d'après les nouvelles que j'ai reçues de là-bas, il est assez naturel qu'après ses 3 premières expériences, elle en ait assez du mariage et... « Je vous en félicite » termina-t-il en ricanant d'une façon assez singulière. Il ajouta aussitôt, car c'était un garçon qui avait reçu la meilleure éducation. « Je vous ai pas fait de peine, au moins. » Une heure plus tard, nous étions arrivés. Nous n'avions prévenu personne. Il était déjà tard dans la nuit. Nous avions décidé de descendre directement à l'hôtel de Bourgogne. Je fus très étonné de trouver sur le quai ce fils d'avoué qui lui aussi avait posé sa candidature et qui avait obtenu le numéro 8. Je me rappelle maintenant son nom, il s'appelait Juste. On pouvait rien dire de lui, sinon que c'était un garçon parfaitement honorable et que le docteur Sabin l'avait soigné plusieurs fois pour des rhumatismes articulaires. « Je savais que vous étiez débarqué, me dit-il, et que vous arriveriez par ce train. Où descendez-vous ?»«
Ben, à l'hôtel de Bourgogne avec le lieutenant Jacobini. »
Juste était tellement occupé de moi qu'il n'avait pas aperçu mon compagnon. Il lui serra la main.
Ben, « je vous accompagne, dit-il. » J'étais de plus en plus intrigué. À l'hôtel, il me suivit dans ma chambre et me remit un pli dont il me demanda un reçu.
C'est un pli que l'on a confié à mon honneur avec mission de vous le remettre en main propre.
J'examinai rapidement l'enveloppe cachetée et je reconnus tout de suite l'écriture. On y avait inscrit mon nom avec cette mention « Pour remettre après ma mort ».
« Le docteur Sabin ? » fis-je dans un souffle. « Oui, répondit l'autre. J'ai rempli ma mission, je n'en dois compte qu'à lui. Seulement, comme je ne sais pas ce qu'il y a dedans cette lettre et que je ne soupçonne même pas ce qui peut en arriver, je désire un reçu pour me mettre à couvert. »
Je lui donnais son reçu.
En vous donnant cette lettre, fis-je, le docteur Sabin vous a pas fait quelque communication particulière ?
Aucune, répliqua-t-il. Oh, il ne m'a rien dit, absolument rien. Là-dessus, il me serra la main et me quitta avec une certaine hâte du reste. Il paraissait soulagé d'un grand poids. Je décachetais le pli, fébrile. 10 minutes plus tard, on frappait à la porte de Jacobini qui allait se mettre au lit. Il demanda « Qui est là ?» Comme on ne lui répondait pas, il alla ouvrir sa porte très impatienté. Un spectre entra chez lui, une lettre ouverte à la main. Ce spectre, c'était moi. J'avais pas la force de prononcer une parole. Il me fit asseoir, me prit la lettre que je lui tendais. Elle a poussé le verrou et lut. Je le verrai toujours penché sous la lampe. L'effet que lui produisit cette lecture n'avait rien à faire avec l'espèce d'anéantissement où j'étais plongé. Au contraire, chez lui, tout semblait se resserrer quand, chez moi, il y avait eu une parfaite décomposition de la volonté. Son front se faisait plus bombé, ses sourcils plus saillants, son menton plus volontaire. Une flamme menaçante comme le reflet glacé d'une épée accompagnait le regard qu'il glissait sur ce fatal document où il avait tremblé la main d'un homme qui se savait condamné à mort. Voici ce que disait le docteur Sabin. Et la lettre est depuis longtemps aux archives du parquet de X. Mais en voici la copie.
Mon cher Zinzin, avant de te marier avec Olympe, j'ai voulu que tu lises ceci. C'est un homme qui va mourir qui t'écrit. Je souffre toutes les douleurs de l'enfer. J'ai été atrocement empoisonné. Personne n'en sait rien, et que là où les coupables est moi. Je n'ai fait entendre aucune plainte, car je n'ai que ce que je mérite. Grâce à de puissants anesthésiants, j'ai réussi par instant à supporter le mal qui me ronge et à montrer à quelques-uns une figure humaine. Ainsi ai-je pu joindre notre ami juste à qui je n'ai rien dit, à qui tu ne diras rien à moins que lui aussi veuille encore épouser Olympe. Alors tu lui montreras cette lettre, mais j'espère que tout en restera là et qu'après ma mort, il ne se trouva plus personne pour prendre ma place, notre place, celle des trois hommes qui ont franchi le seuil de cette maison plein de santé et de vie et qui auront disparu en portant avec eux l'origine de leur triple malheur. Autant que possible, pas de scandale autour d'Olympe. Je l'aime peut-être encore. Pas de scandale, à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Et puis je ne suis tout à fait sûr de rien. En pareil cas, il faut l'aveu de la coupable, et je ne l'ai pas. Enfin, je pourrais peut-être l'accuser, avec toutes les tristes chances, hélas, de ne point me tromper, mais moi je n'en ai pas le droit. Et je vais te dire pourquoi. Tu sais qu'après la mort de ce second mari, j'ai conclu qu'Hubert a été tué par accident. On hésitait entre l'accident et le suicide. Hubert n'est pas mort d'accident. Hubert ne s'est pas suicidé. Hubert est mort assassiné. Et je l'ai su tout de suite au premier coup d'œil sur le cadavre et sur la place qu'occupait le pistolet dans la main. L'arme avait été placée dans la main après la mort. Je n'entrerai point dans des détails. J'aurais pu démontrer cela d'une façon péremptoire. J'avais été appelé auprès d'Hubert aussitôt après le drame, comme on appelle en telle occurrence l'homme de l'art qui seul pourrait peut-être encore accomplir un miracle. Mais tout était fini. Il y avait auprès du cadavre une femme en larmes. Avant de regarder la femme, j'avais vu le pistolet et j'étais déjà fixé. Alors je regardais la femme. Tu as soupçonné peut-être les liens sentimentaux qui nous unissaient déjà. Olympe, du reste, ne s'en cachait guère et je lui avais fait plus d'une fois des observations à cet égard. Je crus voir ses yeux vaciller, fuir les miens, après m'avoir laissé l'impression d'une ardente et muette supplication. Encore aujourd'hui, je suis persuadé que je me suis point trompé. Je frémis d'horreur. Cette femme avait tué Hubert pour être à moi. C'était épouvantable, mais je l'adorais. Et non seulement je ne la dénonçais point, mais sans qu'elle y prît garde et par pitié pour elle, je fis glisser le pistolet à l'endroit normal qu'il eût dû occuper. Je facilitais d'avance la besogne des experts. Tu vois, mon petit Zinzin, je ne te cache rien. Tu comprends maintenant pourquoi je n'ai point le droit d'accuser cette femme. Ma lâcheté m'a fait son complice. Je crois que nous nous sommes aimés comme des damnés qui cherchent, dans l'embrasement de l'amour, l'oubli de tous les paradis perdus. Entre nous, il n'était jamais question d'Hubert, pas plus du reste que de Delphin. On eût dit qu'Olympe n'avait jamais connu ces deux hommes. Mais moi, j'eus la curiosité de savoir comment Delphin était mort. Je commençais une enquête prudente et sournoise, dont on dut s'apercevoir. Je crois bien que c'est de ce jour-là que ma mort fut décidée. Certains propos contradictoires de Palmyre au sujet des expériences de Delphin et des conditions assez mystérieuses de sa fin me conduisirent sur un chemin au bout duquel je trouvais la quasi-certitude de l'empoisonnement de Delphin par sa femme avec la complicité de Palmyre. Je n'avais encore rien dit à Olympe qui ne paraissait se douter de rien. Je m'attachais à dissimuler autant que possible ce que je voulais considérer encore que comme d'affreux soupçons. Mais un jour, je me sentis touché. Une fièvre intense, un malaise inconnu, de sourdes douleurs m'avertirent que moi aussi, je venais d'être empoisonné. Je ne dis rien encore, car je voulais savoir. Savoir. Et je crus faire le nécessaire pour me libérer à temps de la drogue qui déjà me travaillait aux sources mêmes de la vie et qui ne me lâcha point. Mais comment s'y prenait-on? Et pour être sûr que c'était elle, je n'acceptais à boire que de sa main. Et nous buvions dans le même verre. Oui, mais nous ne mangeions pas dans la même assiette. Ah, horreur! Voilà où j'en suis aujourd'hui, où je t'écris cette lettre redoutable. Je sors d'une crise que je lui ai encore cachée. L'ignore-t-elle? S'en réjouit-elle? Seigneur Dieu, j'ai pourtant changé de visage depuis quelques semaines. Et plusieurs fois, je l'ai repoussée de mes bras. Et elle semble s'apercevoir de rien. Ah, le monstre! Les deux monstres! Car je viens d'apercevoir la Palmyre qui m'épie, et je les retrouve trop souvent ensemble. Tout de même, Olympe m'a dit hier, « C'est drôle comme les hommes changent après quelques semaines de mariage. Au bout de quelque temps, on ne les reconnaît plus, ils ne sont plus intéressants. Mon petit Zinzin, tu vas avoir la lettre et moi je vais lui parler. Je ne lui apprendrai rien du reste. Elle doit se douter maintenant que je n'ignore plus de quelles mains sont morts ses deux premiers maris. Mais il faut que je lui dise aussi que je sais qu'elle assassine le troisième et qu'il faudra qu'elle s'en tienne là désormais. Ah, notre Olympe, notre Olympe, oh, si tu savais, Zinzin, tu me comprendrais et tu me pardonnerais. Et puis après tout, elle n'est peut-être pas coupable, cette femme. C'est peut-être Palmyre qui fait tout, toute seule. Ah, mon Dieu, si cela pouvait être vrai. Voilà une idée qui me vient bien tard, bien tard. Songez-y, Zinzin. Moi, je ne peux plus songer à rien. Je ne pense plus, je n'existe plus. Je souffre trop. Ah, je ne voudrais pas mourir pourtant avant de savoir. Si elle pouvait m'apprendre que c'est Palmyre qui a fait tout, toute seule. Je l'aime encore, Zinzin. Après cette dernière ligne qu'on avait peine à lire, tant les caractères en étaient heurtés et désordonnés, venait une signature où semblaient s'être acharnées les forces suprêmes d'un être auquel la vie échappe. C'était point cependant ce jour-là que le docteur Sabin était mort. Sans doute, par quelque curieuse médication, avait-il pu suspendre le destin. Nous savons que ce n'est qu'après le déjeuner du lendemain que le malheureux était allé mourir dans sa chambre solitaire. Mais à cette copie que je viens de vous lire, continua Zinzin, je l'ai tracée la nuit même que l'original me fut remis. Cet original, le lieutenant Jacobini le réclamait. Il en avait le droit. Il prenait ma place, que je lui laissais sans lui avoir fait entendre tout ce que je pouvais lui dire, tout ce que vous auriez dit vous-même en cette horrible occurrence. Mais je vis tout de suite qu'il n'y avait rien à faire et que son parti était pris. Certes, il n'était plus question de notre amour pour Olympe. Il venait de faire un vœu, celui de lui faire avouer, lui faire crier son forfait. Et alors on verrait. Il ne me disait pas ce que l'on verrait, mais on était suffisamment renseignés sur l'intérêt du programme, rien qu'en rencontrant son regard qui brûlait d'un feu terrible. Le docteur Sabin, me dit-il, n'a eu que ce qu'il méritait, et je le plains pas. Mais ce pauvre Hubert, qui était mon camarade et Delphin, que j'ai toujours aimé comme un frère plus jeune, et qui est peut-être mort par ma faute à moi, Jacobini, oh, je me charge de les venger. Il était décidé pour cela à se marier avec Olympe. Et si elle veut plus se marier, lui dis-je. Il ricana affreusement. Une femme comme elle ne refuse pas un homme comme moi. Mais il disait vrai. Olympe se maria avec le numéro 5. Je fus le premier témoin de Jacobini. Il y tenait. Pendant la cérémonie, je le regardais, debout au pied de l'autel, les bras croisés, à côté de sa femme à genoux. Il paraissait déjà la statue de la vengeance. Olympe n'était plus notre Olympe. Sa beauté avait maintenant quelque chose de funèbre et semblait déjà ployée sous la main de la mort comme ces figures de marbre que l'on voit prier sur les tombeaux. Je pensais ce jour-là la voir pour la dernière fois, car le lendemain, je reprenais la mer. À chaque escale, je me jetais sur les journaux. J'ouvrais fébrilement mes dépêches, je décachetais en tremblant mon courrier. Rien ne parvenait jusqu'à moi de la hideuse tragédie qui devait se dérouler là-bas pendant mon absence. Quand, 3 mois plus tard, je revins au pays, ma première question, vous la devinez, il n'y a rien changé ici ? Mon Dieu, non. Et le ménage Jacobini ? Eh bien, il va bien, le ménage Jacobini. Le lendemain, Jacobini va me trouver. Il savait que j'étais de retour. Il avait une mine des plus prospères. Il avait fait prolonger son congé, puisque Olympe s'obstinait à rester dans la maison qu'il abhorrait, lui. Au fond, je ne saurais lui donner de tort, expliquait-il. Elle prétend que si elle quittait le pays et cette vieille demeure où elle a passé une si heureuse jeunesse, elle semblerait donner raison à ceux qui prétendent qu'elle est bien pour quelque chose dans la mort de ses 3 premiers maris. Je regardais Jacobini, il baissa pas les yeux. Zinzin, me dit-il, je comprends ton étonnement, mais on ne saurait soupçonner Olympe. C'est la plus honnête des femmes. Tant mieux, fis-je d'une voix profondément altérée. Moi, tant mieux, et n'en parlons plus. Zinzin. Jacobini. Mais je suis venu pour vous en parler, moi. Et vous n'avez pas le droit de ne pas m'entendre, Zinzin. La première chose que j'ai faite en rentrant au domicile conjugal, au sortir de l'église, a été de lui montrer la lettre du docteur Sabin. Olympe pleurait, mais ne parut nullement étonnée. Je me doutais de tout cela, me dit-elle. Tout le monde me prend pour un monstre. Mais je me demande pourquoi vous avez voulu m'épouser. Je vous répondrai à cela tout à l'heure, lui dis-je, mais nous n'en sommes encore qu'à la lettre du docteur Sabin. Mais que voulez-vous que je vous dise, continua-t-elle d'une bouche amère, Je ne suis pas plus coupable de la mort du maire dont on m'accuse formellement que de celle de mon premier mari. Sabin m'aimait comme un fou. Et il y avait des moments où son amour ressemblait singulièrement à la haine. Il lui échappait des phrases qui, peu à peu, m'éclairèrent sur son horrible arrière-pensée. D'autre part, il se livrait à une enquête abominable. Il interrogeait Palmyre, qui me répétait tout. Alors je m'employais à le calmer. Surtout, je ne voulais pas de scandale. Je me disais que cet affreux état d'esprit se dissiperait à la longue. Et comme je n'avais rien à cacher, il finirait par comprendre que nous étions tous victimes d'une épouvantable fatalité. Et tout à coup, il s'est cru empoisonné. Cela, il ne me l'a pas dit tout d'abord. Je me gardais, de mon côté, de prononcer le mot de poison pour que rien de définitif ne se passât entre nous. Je ne voulais pas être obligé de le chasser ou de faire appel à la justice. Mais comme il continuait de souffrir, je lui conseillais de consulter des confrères, de se remettre entre leurs mains. Il n'en fit rien. Le jour de sa mort, il était sous l'influence d'une drogue à haute dose qui le faisait divaguer. Il avait tenu à paraître au repas, et comme je connaissais sa pensée, depuis longtemps, je m'attachais à ne boire que ce qu'il buvait et à partager sa nourriture. Au dessert, il se jeta à mes pieds en me demandant pardon de m'avoir soupçonné. Il savait maintenant qu'il était empoisonné tous les jours par cette hideuse Palmyre. Et il me supplia de chercher avec moi à la confondre. Comme je la défendais naturellement, il me quitta brusquement et alla s'enfermer dans sa chambre. Vous savez le reste, c'est moi qui ai demandé l'autopsie. Le lieutenant Jacobini s'était arrêté. Et c'est moi qui ai repris. Et cela vous a convaincu ? Non, fit-il. Si Olympe s'attendait à quelque chose dans le genre de la lettre du docteur Sabin, je m'attendais, moi, à quelque explication comme celle qu'elle venait de me fournir, arrosée de quelques larmes. C'est alors que, brusquement, je lui jetai à la face. « Et le tali-tali, Olympe, qu'en avez-vous fait ?» Note. Le Tali-Tali, dont parle ici le lieutenant Jacobini, est certainement le proche parent de celui dont les effets atroces sont dépeints dans l'œuvre de M. André de Maison. On lit dans Dinto « Un homme tournait lentement autour de la marmite où bouillonnaient les fleurs, l'écorce et les racines de l'arbre sacré. À son nom, les enfants prenaient peur et la raison abandonnait les adultes. Mais le sorcier, qui versait maintenant le riz dans le terrible bouillon, avait déclaré que seul le poison pouvait discerner ceux qui suçaient la moelle des os de leurs semblables. Et voici la peinture des éprouvés. Les malheureux ne tardèrent pas à se rouler à terre en poussant des rauques et atroces cris de douleur. Ils tournaient sur eux-mêmes, le corps ramassé en boule, comme des perdrix blessés par le plomb du chasseur, ou des canards égorgés achevant de perdre la vie avec leur sang. Le tali-tali dont parle le lieutenant Jacobini produit des effets foudroyants s'il est absorbé à haute dose. L'empoisonnement peut être lent dans les autres cas. Quelquefois, il se déclare dans toute sa force que 24 heures après l'absorption, la victime, comme il était arrivé pour le docteur Sabin, semble succomber à une crise d'épilepsie. Retour au texte. « Oh !» gémit-elle, « vous croyez que je l'ai empoisonné avec le tali-tali ?» Je lui pris son poignet et je crus étreindre une main de marbre. « Écoutez, Olympe, Hubert est mort d'un accident, je vous l'accorde, et cela m'indiffère complètement. Mais Delphin était mon ami. Delphin est mort de la même mort que le docteur Sabin, empoisonnés tous les deux par le Tali-Tali qui ne laisse pas de traces. Mais c'est moi qui ai donné ce poison à Delphin pour qu'il le soumît à l'analyse chimique et qu'il en trouve l'antidote si possible. Je vous demande ce qu'est devenu le Tali-Tali que j'avais donné à Delphin à mon retour de l'Afrique occidentale. C'est un poison terrible qui ne pardonne pas et que les sorciers donnent là-bas aux malheureux qui sont soupçonnés d'avoir attiré sur le village les mauvais esprits de la forêt. On ne saurait compter ses victimes. Je suis responsable, moi, de celles qu'il a faites en France. Qu'avez-vous fait du Tali-Tali, Olympe ? Olympe releva sur moi son regard glacé. Elle ne pleurait plus. Elle me dit « Il n'y a plus de Tali-Tali. » « Depuis quand ?» lui demandai-je brutalement en essayant de dominer sa pensée rebelle qui nettement se séparait de moi. « Depuis que Delphin l'a détruit sur ma prière. C'est un cadeau, monsieur, que vous auriez bien dû ne jamais lui faire. » Non point qu'il en soit mort, je ne le crois pas. Mais s'il ne me tue pas, moi, ce ne sera point de votre faute. C'était une chose, n'est-ce pas, qui était enfermée dans le ventre d'un fétiche d'acajou, couvert de signes bizarres et curieusement travaillé à la pointe de feu. Oui, c'est cela même, Olympe, il n'y a aucune erreur possible. Vous connaissez bien le Tali-Tali. Oui, Delphin faisait avec ce poison et avec des écorces de l'arbre que vous lui avez apportées des expériences qui m'intéressaient au même degré du reste que beaucoup d'autres. Au début, ces alambics m'amusaient. Et puis, on se lasse de tout. Mais je m'aperçus bientôt que Delphin était souffrant et j'attribuais sa langueur à l'atmosphère viciée du laboratoire. Je le suppliais de suspendre pendant quelque temps ses expériences. Il n'en fit rien. Je lui demandais de me faire ce plaisir, au moins de me sacrifier le Tali-Tali. Il me dit qu'il n'en avait plus rien à craindre, et du reste que le Tali-Tali n'était mortel que pour ceux qui en buvaient. Or, il n'était pas assez fou pour goûter à cette liqueur dont il avait expérimenté les effets sur une poule et un lapin. Il s'amusait de ma pusillanimité, mais je ne lui laissais de repos que lorsqu'il eut détruit le Tali-Tali, ce qui lui arriva un soir devant Palmyre et devant moi. De guerre lasse, il jeta le fétiche et le poison qu'il contenait dans le feu et tout fut consumé en un instant. Comment se comporta le poison dans le feu ? Il y eut d'abord une longue flamme verte, comme une fusée, et puis une vapeur suffocante que nous fuîmes du reste. Quant au fétiche lui-même, ce n'était plus qu'une braise qui jetait une dernière grimace avant de tomber en cendres. Voilà, c'est fini, monsieur, je n'ai plus rien à vous apprendre. Mais si c'est pour que je vous dise cela, que vous avez voulu faire de moi votre femme, vous auriez pu vous en dispenser. Je vous aurais renseigné sans cela, monsieur, et peut-être vous aurais-je aimé ensuite. Maintenant, tout est fini entre nous. Je vous prie de faire en sorte que je ne vous retrouve plus jamais devant moi. Comme Jacobini, arrivé à ce point de son récit, s'était tu et roulait une cigarette. Et alors, fis-je ? Et alors, je l'ai quitté pour aller interroger Palmyre. Je la poussais, elle aussi, sur l'affaire du Tali-Tali. Je la retournais de toutes les façons. C'est une ignorante, cette fille. elle ne pouvait inventer les effets chimiques auxquels elle avait assisté. Tous ces dires coïncidaient absolument avec ceux d'Olympe. Je lui posais les questions qu'Olympe ne pouvait avoir prévues. Enfin, j'élargis mon enquête, à la suite de quoi je revins me jeter aux pieds d'Olympe, qui m'a pardonné parce qu'il faut que tu saches une chose, Zinzin. C'est qu'Olympe est bonne autant qu'honnête. Impossible, fis-je, mais elle n'est pas fière. Là-dessus, il me quitta après m'avoir serré la main avec condescendance et aussi avec la satisfaction à peine déguisée d'un numéro 5 qui n'est pas fâché d'avoir pris la place du numéro 4. Comme vous pensez bien, je n'allais pas les déranger chez eux. Et je revis Jacobini 8 jours plus tard. Une angoisse affreuse se lisait sur sa figure pâle et inquiète. « Zinzin, me dit-il d'une voix rauque, je crois que moi aussi je suis touché. Mais ce n'est peut-être qu'une idée, oui, une idée. Tali-tali vous en fout rien qu'en y pensant. Mais je vais essayer de n'y plus penser, Zinzin. » Je n'eus pas le temps de lui dire un mot, il était déjà reparti. Et voici le drame effroyable qui se passa le lendemain, tel que l'enquête judiciaire le reconstitua avec l'aide du reste de Jacobini agonisant et des derniers témoignages de Palmyre. À midi, Jacobini, qui n'avait pas vu sa femme de la matinée et qui était en proie aux plus sombres pressentiments, bien qu'il essayât de se libérer de cette idée de poison qui le poursuivait depuis la veille et qu'il mit sur le compte des fièvres paludéennes dont il avait souffert aux colonies, le malaise qui le possédait, se dirigeait vers le pavillon. Ce fatal bâtiment qui avait servi de laboratoire à Delphin, qui avait été transformé par Hubert en pavillon de chasseur, était devenu depuis le mariage de Jacobini un singulier petit musée où l'officier avait réuni toutes ses collections ramenées des colonies. Les murs étaient tapissés d'images bizarres, les meubles supportaient de curieuses idoles. Au-dessus du large divan bas, recouvert de la dépouille de grandes chasses, étaient suspendues des panoplies formées d'armes frustes et sauvages, casse-têtes, flèches, sagaies, couteaux-scies, qui semblait avoir été inventé pour le bourreau, plus que pour le guerrier ou pour les défricheurs. C'était là qu'était servi le déjeuner. Quand Jacobini y pénétra, une porte se fermait hâtivement au fond de la pièce. En même temps qu'il avait entendu des pas précipités, un bruit de claquoir comme celui d'une boîte dont on laisse retomber le couvercle, était venu frapper son oreille. Il courut d'abord à la porte, l'entrouvrit et aperçut Olympe qui avait une conversation à voix basse avec Palmyre et paraissait fort agité. Dans le même temps, une crampe terrible le saisit aux entrailles et il laissa se refermer la porte, n'ayant plus la force de se laisser tomber sur le divan. D'une main, il s'était accroché à la boîte à ouvrage d'Olympe, dont le couvercle mal refermé laissait échapper des bouts de fine lingerie. Obéissant au mouvement fébrile de sa main, le couvercle s'était soulevé. Les doigts de Jacobini, crispés par la douleur, fouillaient d'un geste inconscient toute cette dentelle et rencontrèrent soudain un corps dur. Et voilà qu'il se redressa, hagard, fou. Sa main tenait le fétiche de mort, l'horrible fiole, le hideux Tali-Tali, qu'Olympe et Palmyre lui avaient juré avoir été brûlés, détruits, anéantis devant elle. Olympe lui avait menti. Olympe l'empoisonnait comme elle avait empoisonné les deux autres. Et il allait connaître le sort atroce qui avait déchiré son prédécesseur dans la couche de cette abominable Stryge. Et alors, voilà ce qui se passa. D'autant, pendant quelques instants, le mal qui le ravageait, Jacobini versa dans le carafon de vin de la Moselle qui était sur la table ce qui restait du poison dans le fétiche. Il en restait assez pour constituer une dose foudroyante, et il attendit sa femme. Elle ne tarda pas à entrer. Elle l'embrassa en lui demandant comment il se portait ce matin. Il répondit qu'il se sentait beaucoup mieux, mais que la fièvre ne l'avait point tout à fait quitté et qu'il avait soif. « Eh bien, il faut boire, mon chéri, lui dit-elle. » Il n'attendit point qu'elle lui versât à boire et il remplit les deux verres. « Mais tu sais bien que depuis quelque temps je ne bois que de l'eau, lui dit-elle. Les médecins me défendent le vin. » Il insista. Il voulait qu'elle bût avec lui dans le même verre comme ils avaient fait souvent. Elle détourna la tête, alors la saisissant comme une brute, il lui renversa la tête et sauvagement lui pinça les narines, et elle dut boire. Elle criait d'effroi, il lui dit, « T'aurais peut-être préféré une autre coupe. » Et il lui montra le Tali-Tali. Elle appela au secours, mais tout de suite elle porta la main à son ventre et fut prise d'une crise terrible. En même temps, le mal le possédait à nouveau, lui, dans toute son horreur. Ils tombèrent en se roulant et en se déchirant sur le divan. Ils mêlaient leurs gènes, se crachaient leurs baves empoisonnées, se mordaient, s'arrachaient les chairs avec des cris de fauve. Ils se tordaient, mêlés l'un à l'autre dans le même brasier. Jacobini trouvait encore la force de l'insulter, de prononcer les noms de ses premières victimes. « Tu n'en tueras plus, tu vas crever avec moi !» Mais il souffrait trop. Il lui semblait avoir tout l'enfer dans le ventre. Il arracha de la muraille des armes un coutelas et se le plongea dans les entrailles pour tuer le mal d'un coup avec lui. Et il ne réussit qu'à se faire une horrible blessure, alors il retourna le fer contre elle et ouvrit Olympe comme une bête de bas en haut. Elle hurlait encore. Possédé de 1000 démons, il lui fracassa la tête, la perça de sagaie comme une pelote à épingle, lui creva les seins, les yeux, en fit des morceaux, et il continuait à se frapper lui aussi. À eux deux, ils ne formaient plus qu'une horreur sanglante, sans nom, sans forme. Elle était morte quand les domestiques accoururent dans la pièce. Mais lui n'expira que le lendemain matin, après avoir, dans quelques moments de lucidité, narré les hideuses péripéties de leur abominable martyr, au substitut qui, lui aussi, avait espéré de se marier avec cette femme, et qu'il eut salité en rentrant chez lui. La nuit même, il se mit à divaguer. On put craindre qu'il devint fou et que ce drame comptât une victime de plus. Zinzin, maintenant, se taisait. La sueur coulait de ses tempes. Tous se taisaient. Enfin, la voix de Chanlieu dit: « Et toi, tu n'es pas devenu fou ?»« Non, fit-il, mais je pourrais peut-être le devenir. » Encore un silence. Puis la voix du commandant Michel. « La garce, tout de même, elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Ce qu'elle avait fait était épouvantable. » On entendit une sorte de gémissement. C'était Zinzin. Ce qu'il y a d'épouvantable, dit-il, c'est qu'elle n'avait rien fait.
Oh ! S'exclamèrent les autres.
Oui, elle était innocente. J'ai appris cela l'autre jour seulement.
C'était Palmyre qui avait tout fait toute seule, s'écria Gobert.
Oh, quant à celle-là, fit Zazin avec un ricanement terrible, la justice l'a pris et ne la lâcha pas. Et je vous prie de croire que tout ce qu'il était en mon pouvoir de faire pour qu'elle cueillit le maximum, hein, je l'ai fait. J'ai fait connaître la lettre du docteur Sabin, dont l'original avait été détruit par Jacobini. Sans moi, elle échappait peut-être, la Palmyre. Et à la lettre lue en cour d'assises, j'ajoutais en qualité de témoin quelques commentaires bien sentis et je rapportais des propos qu'elle écoutait d'un air idiot. Elle se bornait à répondre non à tout ce qu'on lui disait et à pleurer sur Olympe. Pour celle-ci, cependant, elle donnait quelquefois des explications qui nous ahurissaient tant elles étaient bêtes ou nous paraissaient naïves. Ainsi, par exemple, quand on lui disait « Si votre maîtresse était innocente, elle n'aurait pas raconté à son mari que le Talitali avait été détruit devant elle et devant vous. Bon, » répliquait-elle, « c'est bien simple, ma fille. On s'était entendu pour dire ça parce qu'il y avait des bruits qui couraient et que nous ne voulions pas être soupçonnés. » D'autant que nous ne savions pas ce qu'il était devenu le Talitali, et que nous croyions bien que M. Delphin l'avait bien brûlé tout entier, comme Madame le lui avait commandé un jour, qu'il en avait jeté dans le feu quelques gouttes devant nous. Oui, elle avait trouvé celle-là. Elle fut huée. Et je criais plus fort que les autres.
« Et à quoi a-t-elle été condamnée ?» demanda Chonlieu.
« À la peine de mort, » fit Zinzin dans un souffle.
« Mais on n'exécute pas les femmes ?»«
Non, sa peine a été commuée en une réclusion perpétuelle. Elle est morte en cellule il y a 10 ans. J'ai appris encore cela l'autre jour. »«
Et s'est-elle repentie, a-t-elle avoué ?» demanda Michel.
« Non !» dit Zinzin en nous regardant comme un dément.
Mais elle n'avait rien à avouer. Elle aussi était innocente.
« Au nom de Dieu !» fit Chaulieu.
« Mais alors, qui est-elle coupable ?» interrogea Gobert.
« Un homme qui vient de mourir en faisant, lui, des aveux et qui s'était retiré après le drame, pas loin d'ici. » Oui, il est mort l'autre jour au Bourillon. Cet homme possédait dans le bourg une petite propriété qui joignait le fond du parc où était le pavillon.
Mais qui était cet homme? L'un des 12?
Oui, l'un des 12. C'était même le 12e.
Celui-là n'avait aucun espoir d'épouser jamais Olympe. Car bien sûr, elle n'irait pas au bout des 12, n'est-ce pas? Après 11 morts pareils.
Seulement, il supprimait ce qui avait été plus heureux que lui. Et à la fin, il s'arrangeait pour faire croire que l'assassin, c'était Olympe. Rappelez-vous l'arrivée du 12e, dans le salon où nous étions alignés. L'arrivée de M. Passifère, le receveur de l'enregistrement. Comme Olympe s'était joué de lui, et comme nous avions ri quand elle l'avait planté tout au bout du rang à la queue. Oui, on s'était moqué de M. Passifère quand il était entré dans le salon. Eh bien, il s'était vengé, cet homme.